Attention, qui que vous soyez, attention. Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
Pour l'amour du ciel, faites ce qu'il vous dit.
You talking to me? You talking to me?
Ça, c'est l'amour. Ça, c'est la haine. Tout ce qu'il voulait, c'était les réponses que nous cherchons tous.
On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher.
Bonjour à tous, c'est Focus Store, le retour de la vengeance. Bienvenue chez nous, ravi de vous retrouver après presque 3 mois d'absence. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Toutes les semaines, on s'empare des objets culturels dont tout le monde parle. Et devinez ce qu'on en fait ? Eh bien, nous aussi, on en parle. On est pour, on est contre, on adore, on exècre, on se bat et on débat autour d'un livre, d'un disque, d'un film et d'une série. Mais laissez-moi vous présenter ce fameux « on ». Il s'agit de Laurent Raphaël, rédacteur en chef du magazine Focus Vif, presque bronzé. Non, en tout cas, enfin beige, après ce long été.
Quelle faille.
Il s'agit de Laurent Aubrex, chef de la musique chez Focus, la barbe fleurie. Hein, c'est de saison.
Bonjour. Et taillée.
Oui, pour une fois. Et enfin, il s'agit d'Olivier Van Varenberg, journaliste bouquin, les doigts de pied pas encore tout à fait repliés. Bonjour
pas
Olivier.
Bonjour Myriam.
Salut l'équipe. Pour ce premier numéro de la 3e saison de Focus Store, je vous propose de nous pencher sur le film Saint-Laurent de Bertrand Bonello, sur le roman L'amour et les forêts d'Eric Reinhardt, sur l'album This Is All Yours de Al Jay, et enfin sur la série The Honorable Woman. Clap de début, on y va.
J'ai créé un monstre. Et maintenant, je dois vivre avec.
Yves, bientôt, sera le seul à rayonner.
Je ne vois pas à quel point la rue est devenue laide. Monstrueusement laide.
Tu peux te plaindre, mais tu as vu la planète, mon cher.
Le deuxième film sur Yves Saint-Laurent en quelques mois. Celui-ci a sucré le prénom pour ne garder que le nom de famille, Saint-Laurent. Il est signé Bertrand Bonello, le réalisateur de l'Apollonide. Il suit le créateur de 1967 à 1976, où il boit du whisky, gobe des pilules, lève des jeunes hommes dans des fourrés et déambule dans son boudoir au milieu de ses œuvres d'art d'un air triste. C'est un film pour l'œil, avec de vraies fulgurances de mise en scène. C'est visuellement très riche, mais c'est aussi un film au scénario très pauvre, qui dure physiquement pour le spectateur exactement le temps réel qu'il dépeint dans la vie de Saint-Laurent. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de passer 9 ans dans la salle. Est-ce que toi, ça t'a plu, chef ?
Sentiment un peu contrasté. Alors, je partage ton point de vue sur la langueur et une certaine lenteur, répétitivité dans la mise en scène et dans le déroulé. Et en même temps, on a un peu le sentiment que le côté expérimental que défend Bonello permet d'aller au-delà du biopic classique auquel on a eu droit avec le film de Jalil Lesper, pour nous amener dans quelque chose de plus, une espèce d'inframonde comme ça, où il évoque aussi bien la mort que le doute, tous les monstres qui ont tiraillé Saint-Laurent. Et donc on arrive dans un film kaléidoscopique assez troublant finalement après coup. Et donc je dirais que le biopic classique que Lesper, donc officiel, qui avait été accepté par Berger, qui est sorti il y a quelques mois, est un peu la drogue douce. Ici on a droit à la drogue dure, en fait, pour prendre une image. Alors oui, c'est lent, c'est répétitif, mais encore une fois, je pense que ce cheminement est beaucoup plus personnel. Il y a une dimension beaucoup plus artistique dans la recherche, aussi bien au niveau du son, la bande son est magnifique, que dans l'utilisation du split screen, par exemple, qu'il avait déjà utilisé dans la Polonide. Et donc c'est presque une œuvre d'art en soi, avec une réflexion même sur le cinéma, avec une mise en abîme au départ, etc. Voilà, donc je trouve que c'est très riche artistiquement, mais
émotionnellement, qu'en as-tu pensé ?
Ben, émotionnellement, on se retrouve finalement à la hauteur du personnage dont on a peu d'indices. Bon, on connaît tous un petit peu son histoire, mais c'est vrai que, alors soit dit table sur le background qu'on peut avoir de Yves Saint-Laurent, dont on connaît plus ou moins la traversée, mais c'est vrai que par exemple l'internement, le poids de la famille sont à peine évoqués. au début, mais vraiment en une phrase. Et je pense que Bonello, quelque part, s'intéresse plus à un personnage indépendamment d'Yves Saint-Laurent. Donc c'est plus une histoire, une trajectoire personnelle dans, aux confins de la folie, de cette peinture d'époque où tout est possible, mais en même temps tout s'effondre, le tournant des années 70. Et donc c'est ça qui l'intéresse plus que Yves Saint-Laurent en tant que tel.
Ouais, et pour parler du comédien principal, Gaspard Ulliel, vous avez tous vu le Yves Saint-Laurent de Jalil Lespère. Il est mieux, il est moins bien. Enfin, moi, je trouve qu'il est moins bien, mais. On dirait quelqu'un qui imite Pierre Ninet, qui imite Saint-Laurent, un peu, non?
Je trouve qu'ils se ressemblent assez fort, en fait, Pierre Ninet et Ulliel, quelque part, c'est parce que tous les deux, ils sont dans une hyper-imitation du Yves Saint-Laurent. On le voit bien, par exemple, au début du film, où il est de dos, la voix est assez troublante, on a l'impression que c'est Yves Saint-Laurent qui parle. Donc, il pousse quand même très très loin, ne fût-ce que dans le travail sur le corps, les poses. Je les mettrais à égalité. Je trouve qu'ils ont tous les deux réussi quand même à capter quelque chose, avec ici un peu plus peut-être de liberté malgré tout par rapport à l'original, mais c'est pour se rapprocher du propos de Bonello, qui veut pousser et amener le film sur un autre terrain, encore une fois, que le récit de la vie tip-top de Yves Saint-Laurent.
Laurent Houbrex, en tant qu'icône fashion de cette rédaction, est-ce que ça t'a parlé des tribulations d'un modeux?
Je trouvais qu'il y avait en effet des choses à retirer du truc, à des fulgurances comme ça. Après, ça m'a quand même laissé largement à quai, émotionnellement parlant, par exemple.
Oui.
À ce niveau-là, on a vraiment l'impression d'être un peu comme ces couturières, en fait, de Yves Saint-Laurent qui sont là en background, mais qui finalement font... Oui, c'est un élément du décor quand on ne s'intéresse pas vraiment à elles. Enfin, j'entends bien que ce n'est pas vraiment le sujet du truc non plus, mais elles sont là, mais en même temps, elles sont à distance. Enfin, moi, je suis resté quand même... Je trouvais que c'est un objet assez froid. C'est centré sur le personnage, en même temps, il lance des pistes comme ça, mais dont on pense qu'il va les exploiter. Puis, comme tu parles en effet de la première scène où il parle de son enfance, enfin, où il évoque une chose, enfin, c'est même pas son enfance, un épisode pendant la guerre d'Algérie, c'est ça?
Oui, c'est ça, l'internement.
L'internement.
Parce que c'est un traumatisme qui expliquerait un peu ce qu'il est devenu.
Et puis, on en reste à peu près là, en fait. Il y a une autre scène où Pierre Berger négocie avec les Américains, on pense qu'on va partir sur un truc. Pas forcément.
Un thriller économique.
Oui, c'est ça. C'est pas un thriller économique, mais cette scène dure des plombes. Alors, en plus, c'est donc. Il y a une traductrice qui traduit un anglais que. Mais vraiment complètement basique, donc c'est une espèce de doublonnage.
Ouais, c'est ça quelque part l'originalité, ouais. un peu. C'est qu'il vient créer des zones mouvantes comme ça dans lesquelles on s'enfonce, un peu des sables mouvants, et ça finit par créer une espèce de petite musique un peu absurde, un peu décadente et décalée. Et c'est le côté expérimental qui finit, je trouve, par être. Il compose une espèce de tableau.
Oui, c'est ça. Chaque personnage est
en mouvement,
comme un modèle, quoi.
Tout à fait.
Qui défile sur son truc. Donc, il y a toute une cour, toute la cour de Saint-Laurent, comme ça. Enfin, moi, je connais pas bien la. Pas du tout la
Tiens,
biographie de Yves Saint-Laurent.
C'est toi l'icône fashion.
Oui, c'est ça. Et donc, il y a. Je vois bien qui sont ces personnes, mais on ne les creuse pas. Ils sont à peine. On ne sait pas ce qu'ils font exactement dans le parcours d'Yves Saint-Laurent. Enfin. Donc voilà, il y a comme ça des personnages assez typés qui passent par là, des aussi transparents finalement que les top modèles qui défilent sur le catwalk.
Avec une fin en forme de triomphe qui est censée nous prendre aux tripes quand on voit toutes ces étoffes voltées en split screen façon Mondrian. Moi, l'émotion du vêtement, voilà, ça me parle pas tellement, mais je pense que je suis pas le meilleur public pour ce genre de...
Mais en dehors du film, est-ce que l'émotion du vêtement te...
Non, je suis pas très émotive. D'accord. Par rapport à mon vestiaire. Je m'habille parce qu'il le faut, je crois. Mais toi, Olivier, tu n'as pas vu ce film, tu as décidé de faire de...
Écoute, Chiara Mastroianni est très belle, à part ça, non, je me suis trompé de film et j'ai pas eu le temps, donc j'ai vu Trois Cœurs. Donc
qu'est-ce que tu nous en dis?
Écoutez, rien de bien. Allez-y si vous aimez les drames à la française avec des femmes qui pleurent devant la vitre où il pleut et des choses comme ça. Voilà, il y a des très bonnes actrices. Il y a un Poulvort qui, cette fois-ci, se joue très fort du sourcil où c'est vrai qu'il devrait prendre un peu de vacances. On sent qu'il n'aime plus tourner et qu'il s'aime plus beaucoup, donc forcément, il est difficile à l'aimer. Mais c'est pas dérangeant. Il y a, voilà, il y a des très bonnes actrices. Hein, c'est un triangle amoureux classique. Il tombe amoureux d'une sœur, ça ne peut pas se faire. Il tombe amoureux de l'autre, et il fait ça avec l'autre, et puis l'autre sœur revient, donc sur papier, bof.
Ah, c'est ça.
C'est le cinéma de Benoît Jacquot. Il y a des petites fulgurances dans la narration, dans la mise en scène, dans des choses comme ça, une petite légèreté qui vient mettre dessus. Pour le reste, ça reste très léger.
D'accord.
Je n'en dirai pas plus.
Merci. Alors, de retour à Saint-Laurent, moi, j'ai dû mettre 6 sur 10 à ce film. Et toi, Laurent ?
Pareil.
H et Laurent.
Oui, donc je pousse jusqu'à 7.
Et dans les pages de Focus, notre ami Jean-François Pleugers aime beaucoup, beaucoup ce film. Il parle d'un film racé et élégant habité par Gaspard Ulliel.
Ce qui est tout à fait juste.
C'est vrai.
Extrêmement racé et élégant. Et alors, dans l'interview que Jean-François a faite de Bonello, Bonello explique si les gens veulent avoir des informations sur Yves Saint Laurent, ils n'ont qu'à aller sur la page Wikipédia. C'est peut-être ce qu'il faut faire finalement, ouais, avant d'aller voir.
Sans doute. À noter que ce film qui est reparti bredouille du dernier festival de Cannes représentera la France aux prochains Oscars. Et pour nous, c'est qui encore ?
C'est les Dardennes.
C'est les Dardennes. Oh. Deux jours, une nuit.
Alors, incroyable.
L'amour et les forêts, c'est un roman signé Éric Reinhart, l'auteur notamment de Cendrillon et du système Victoria. Éric Reinhart qui livre ici un des tout gros chocs de la rentrée littéraire, un bouquin dont on a beaucoup beaucoup parlé avec le Carrère et le Trier Valeur, hein, ne l'oublions pas celui-là. Ouais, je l'ai lu, hein,
oh,
moi.
Le parallèle. Ouais, ouais, ouais. Dans le style, je crois que c'est pas tout à fait le même genre.
Non, mais c'est une histoire de souffrance aussi,
oui,
une femme
qui souffre.
Ouais, ouais. L'amour et les forêts est en lice pour le Goncourt et le Renaudot, entre autres choses. Je le verrais quand même mal repartir les mains vides. Enfin, on ne sait jamais. C'est l'histoire d'une lectrice d'Éric Reinhart, Bénédicte Ombre-Dane, emmurée, séquestrée psychologiquement par son mari. Le récit est d'un réalisme tout à fait saisissant, au point que quand un jour elle décide de reconquérir sa liberté pour quelques heures, eh bien c'est le cœur du lecteur qui bat à tout rompre. Cette parenthèse enchantée va bien sûr se refermer sur un drame pur et dur. L'amour et les forêts, c'est un coup de cœur littéraire comme j'en ai plus ressenti depuis vraiment longtemps. Un livre intense, très juste, d'une rare violence et à la fois d'une grande beauté, le chef-d'œuvre d'un auteur à la plume exceptionnelle de grâce et de précision. Est-ce que c'est ton avis aussi, Olivier Van Varenberg ?
Oh, comme c'est bien dit, Myriam. Écoute, oui, le mot qui revient sur ce livre, c'est bouleversant. De fait, c'est difficile de rester insensible à la lecture de ce livre, qui n'est pas dans mes goûts usuels.
Non.
Il faut bien expliquer.
Quels sont tes goûts usuels ? Explique-le à l'auditeur.
Écoute, ils ne sont pas très 19e. Donc, Eugénie Grandet, c'est une souffrance morale à mon adolescence, parce que j'ai eu un examen de passage. J'ai dû faire Balzac, donc... Donc voilà, la littérature 19e romantique, ça n'est a priori pas mon genre. Et la particularité de ce livre, je pense, indépendamment de son sujet et de sa force, voilà, c'est qu'il mélange vraiment deux tendances très fortes. Il y a un côté voilà, très 19e dans l'écriture et en même temps très contemporain, très postmoderne aujourd'hui. Il mélange ces deux manières de faire. Alors, pour être tout à fait sincère, les 100 premières pages m'ont été pénibles. C'est très dense, c'est interminable.
Pourtant, elles sont très concrètes, ces 100 premières pages.
Oui, mais en même temps, puis très peu de dialogue.
Il s'y met en scène, quoi.
C'est voilà, c'est très peu de dialogue. C'est très postmoderne dans l'idée que c'est l'écrivain qui rencontre. Donc voilà, il y a ce côté autofiction qui s'impose directement, qui est vraiment d'aujourd'hui. Mais son écriture est, encore une fois, très 19e, très romantique. Il y a ce moment, voilà, ce climax. Difficile de parler du livre sans vraiment parler de son contenu, mais voilà, elle fait une rencontre, un moment très important. C'est une histoire de harcèlement moral et conjugal très important, voilà, au sein d'un couple. Elle a un moment à la Emma Bovary avec un amant. C'est le summum du romantisme du livre. C'est une bluette. Bon,
un peu
personne
cul.
N'y croit.
Personne
ce moment-là, pas.
Croit.
Oh non, ils sont contre l'arbre, elle lui tient la main, elle tremble.
Oui,
non,
il y a
des moments sur...
Après, ça mute quand même un peu.
Certes, mais je veux dire, c'est difficile d'y croire. Pour le dire très vite, elle rencontre, et voilà, elle est prise d'une folle liberté, elle va sur Mythique. Ses pages sur Mythique sont incroyables, sont magnifiques, sont très fortes, sont très puissantes, sont très dures. Mais elle rencontre le type parfait à son premier rendez-vous sur Mythique, déjà bon. C'est assez difficilement crédible. Mais voilà, il y a ce moment-là, donc très romantique, très 19e. Et puis le livre bascule sur la trajectoire de cette femme, sur une forme dont ce côté, dans l'écriture très littéraire, s'atténue un peu. Et évidemment, on est pris dans ce récit, dans cette tragédie, parce que ça n'est que ça, avec des personnages. Elle, évidemment, c'est un portrait de femme d'aujourd'hui. Voilà, c'est évidemment très fort. J'ai quelques écueils par rapport à ce qui l'entoure. Le personnage du mari, puisqu'on est dans une histoire de harcèlement moral, on ne dévoile rien en disant qu'elle vit avec une merde immonde.
Mais non, 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 je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est une merde ordinaire, comme on l'est tous.
Oui, mais immonde, on peut être ordinaire et immonde. Je veux dire, c'est quelqu'un de très commun.
Mais
et sans doute que des personnages comme ça existent dans...
C'est pour ça que ça m'a
l'horrible banalité
aussi,
de nos existences de contemporains. Mais sur ce personnage-là en particulier, on ne reste qu'à la surface de ce personnage-là.
On n'a jamais vraiment sa version à lui.
Voilà, chose, jamais. Alors que sa narration change. Il est beaucoup focalisé sur Bénédicte, mais il va chercher d'autres personnages, la famille, le narrateur. Mm-hmm. Il y a ce côté d'autofiction, il se met en scène. Il faut... On le lit comme une réalité. Il faut bien comprendre, après avoir lu l'excellent papier d'Isaline dans le Focus, que donc... Il s'inspire de la réalité. Il a rencontré des femmes par rapport à ses précédents bouquins qui leur ont parlé de leurs problèmes conjugaux, de ce problème de harcèlement. Cette figure du pervers narcissique, qui n'est jamais citée comme pervers narcissique, mm-hmm. et il évite ce côté un peu sociologique autour de ça. C'est peut-être pour ça qu'il ne va pas plus loin dans le personnage du mari. Et donc, il s'inspire de la réalité, mais ça reste de la fiction pure. Bénédicte ouais. n'existe pas, cette rencontre n'existe pas telle qu'elle. Mais en tout cas, c'est un portrait de femme très fort, et pour finir là-dessus, on laisse la parole aux autres, je pense par contre que la quatrième de couverture est très mal faite.
Ah,
parce qu'on en
lu.
Parle comme un récit d'émancipation, comme une sorte d'ode à la liberté, alors que pas du tout, c'est une tragédie oui. horrible, c'est un récit sur l'enfermement, sur l'impossibilité de sortir de sa condition, c'est ça qui est très fort là-dedans, en plus d'être un objet littéraire, encore une fois, il y a des passages incroyables, les passages d'engueulade du mari. Voilà, c'est des pages d'une puissance mm-hmm. comme on en voit rarement en littérature. C'est évident qu'il ne peut pas partir d'un, il aura un prix littéraire, évidemment, cette ouais. année, même si Carrère passait à côté. Je pense que là, voilà, il y a une unanimité là-dessus, même si, encore une fois, je finis, il y a un écueil sur ce style qui n'est pas approprié à tout le monde, ceux qui aiment la littérature anglo-saxonne, qui aiment les choses plus rapides, basées sur les dialogues. Voilà, on n'y est pas du tout. Mais il faut passer ça pour avoir un livre, effectivement, d'une puissance rare. Et sur un portrait de femme qu'on n'a plus vu depuis ce cher Honoré.
Que dire après ça, chef ?
Mais je pense, pour rebondir sur la présence du mari, je crois que c'est fait exprès qu'il reste dans l'ombre, parce que le mari, finalement, n'est qu'une métaphore du harcèlement que peut ressentir l'héroïne. Et métaphore de quoi ? De toutes les souffrances et les douleurs qu'elle endure dans le monde d'aujourd'hui. Il y a un côté comme ça.
En même temps, il y a des éléments très concrets sur lui, donnés par les autres personnages du roman.
Oui, c'est vrai.
Oui, mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment son témoignage à lui.
On ne rentre pas dans sa tête à lui.
Voilà, mais je pense que c'est parce que finalement, c'est un background qui est peut-être finalement secondaire et qu'on se centre plus sur sa douleur à elle et la difficulté qu'elle a à vivre. Un élément que je trouve intéressant dans le livre aussi, c'est le thème qui m'est cher de l'art comme moyen de sauver l'âme, mm-hmm. puisque c'est une des références et une de ses croyances, et c'est ce qui la rapproche de la rencontre qu'elle a avec Reinhardt, puisque c'est inspiré, comme tu l'as dit, d'une histoire vraie, puisque le personnage avait été touché par Cendrillon, son livre, un de ses romans précédents, et donc elle vit dans ce couple un enfermement douloureux, mais elle continue à croire que l'art peut la sauver, en tout cas l'aider à vivre. Et là, il y a un lien, je trouve, qui est intéressant avec le film Yves Saint Laurent, c'est qu'ici l'art est quelque chose qui est une forme de rédemption, alors que chez Saint Laurent, l'art devient une forme d'enfermement, mm-hmm. c'est la prison dans laquelle il va s'enfermer chez lui avec ses œuvres et dont il va plus sortir. Voilà, enfin je trouvais ce parallèle intéressant et bon, je rejoins tout à fait ce que vous avez dit sur le bouquin, c'est maîtrisé. Parfois un peu maniériste dans la manière d'exprimer les choses, mais voilà, ça fait partie et c'est cohérent par rapport aux références, au 19e, au symboliste, à tout cet univers-là. Et il arrive à mêler à cette hybridation qui est à la fois très contemporaine entre une écriture, un canevas très classique et des thématiques qui sont tout à fait contemporaines. Et ça montre bien que mêler la réalité, la fiction et comme ça, avoir cette profondeur de champ qu'il a dans son roman apporte vraiment un supplément d'âme au roman.
Ce qui est perturbant, je trouve, c'est que on parle là d'une femme qui est cultivée, qui a fait des études, on n'est pas du tout dans des...
Ce qui est souvent le portrait, entre guillemets, de beaucoup de femmes qui subissent ce genre de choses dans les couples, a priori.
Ah bon ?
Et quand ce que j'ai pu lire.
Ouais, et quand tu parles de l'art qui est un outil de rédemption, ici j'ai l'impression que c'est justement le contraire, c'est une espèce de fuite, ça n'aide pas du tout à solutionner sa situation, c'est quelque chose dans lequel elle se réfugie. Et c'est même assez effrayant de voir comme l'art peut finalement distraire des choses essentielles et peut vous...
Ah, c'est pas mal ça.
Vous distraire de la vraie vie, quoi. Ça, vous n'êtes pas du tout à vivre, ça vous enfonce quelque part.
Si elle n'avait pas ça, elle n'aurait rien du tout. Elle n'aurait plus que la confrontation avec.
Elle serait obligée, justement.
Je ne suis pas sûr que les femmes qui n'ont pas accès à tout cet univers-là se portent mieux ou vont plus facilement quitter leur prison conjugale. En tout cas, des témoignages qu'on peut entendre, en général, il n'y a pas de solution. C'est souvent un supplice qui est subi, mm-hmm. mais dont on ne comprend pas toujours pourquoi il est subi, mais voilà, qui est subi. Peu importe finalement les origines ou le niveau d'éducation ou quoi que ce soit. Je crois que toutes les femmes qui subissent ça sont logées à la même enseigne. Simplement ici, il y a encore ce petit espoir de pouvoir se raccrocher, de pouvoir sauver quelque chose.
On parle toujours de femmes qui subissent ça, mais c'est pas un roman spécifiquement féminin, je trouve, même si c'est comme ça qu'il est présenté. Oui, mais des hommes peuvent aussi subir du harcèlement moral, de l'enfermement psychologique. Non, mais c'est vrai.
Mais ce qui est très perturbant dans le bouquin, c'est que quand elle développe un peu, quand il explique cette mécanique d'harcèlement, on peut très vite se sentir et l'un et l'autre, comme on en parlait tout à l'heure. On peut se sentir à la fois bourreau et victime.
Moi, j'ai déjà été Jean-François et j'ai déjà été Bénédicte, quoi. Enfin, j'espère que vous aussi, parce que sinon, vous n'êtes pas tout à fait humain.
J'espère qu'on n'est pas à ces proportions-là et l'un et l'autre, parce que de temps en temps, de fait, il y a le côté suffocant du livre, parfois pénible, c'est justement cette impossibilité de se sortir de situation alors qu'elle est entourée. Il y a de la famille, il y a a priori des amis, il y a des ouvertures, cet accès à l'art.
Lui se dit conscient à un moment de ce qu'il fait endurer. Oui, oui, mais enfin, voilà, il n'y a même pas cette idée éventuellement de déni ou quoi. Suite à une émission de radio, il prend conscience que c'est un bourreau.
Mais qui se retourne à la première phrase qu'elle
lui
dit.
Tout à fait.
Donc, il y a ce côté pénible qui est voulu, je pense, aussi dans son écriture, dans sa manière. Encore une fois, ces pages sont d'une densité. On ne passe pas à la ligne, c'est vraiment à la suite. C'est très dense, très lourd. Ce qui donne sans doute une partie du sentiment qui doit être celui du personnage. Donc en soi, ça c'est très fort. La forme rejoint le fond de ce qu'il essaye de nous faire ressentir, parce que c'est quand même quelque chose de très ressenti. Très 19e dans ce côté-là, très, pas sentimental, mais très affectif. C'est vraiment dans l'affect en permanence.
Bon, ça me fait plaisir que ça vous ait plu.
Voilà. Moi, c'était pas gagné.
Oui, j'imagine. Je lui mets carrément 9 sur 10 à ce roman.
Et moi aussi.
Oui, Laurent.
Moi 8.
Oui. Oh Laurent fait sa coquette.
Pour le côté théâtral, parfois, mais 8.
Je mets 8 aussi pour ce démarrage. Il faut passer au-dessus. Je dis à tous ceux qui vont essayer de le lire, il faut passer au-dessus de ça.
Soyez prévenus. Notre spécialiste maison de la littérature, Isaline Parisis, a beaucoup aimé ce roman. Dans nos pages, elle écrit qu'Éric Reynard signe un portrait de femme stupéfiant, hantée par le 19e siècle.
Sleeplessly embracing butterflies and needles line my seamed up drawing, encased in case I need it. In my stomach, on my heart, chainmail, hunger of the pine, hunger of the pine. Sleeplessly embracing, yon yon tint to me, plenty more days in the sea, and so you finally use it. Bedding with me, you see, at night your heart wears night armor. Thank you.
Le groupe des Boy Next Door de Leeds est de retour avec un deuxième album, This Is All Yours, qui convoque la figure tutélaire de Radiohead, en y mêlant Miley Cyrus notamment. This Is All Yours qui succède à An Awesome Wave, un disque qui avait raflé le Mercury Prize en 2012. C'est le plus prestigieux prix musical britannique et irlandais. Que dire, que penser de This Is All Yours? Que c'est un album qui se révèle davantage à chaque écoute, qu'il convient parfaitement au ciel de septembre, qu'il est hautement recommandable. Mais est-ce qu'il est mieux, est-ce qu'il est moins bien que le précédent? En résumé, quelle est la réponse à la question du Figaro? Alger s'est-il raté avec ce disque? La presse n'est pas très élogieuse à propos de ce disque. Laurent, et toi, quelle est ton opinion?
Attends, le Figaro n'a pas été élogieux, je ne sais pas. Déjà, quel grand écart.
Elle a des réserves, mais on peut en avoir sur ce disque. Qui est pas...
Écoutez, on tape Alger dans Google Actualité, il n'y a que des déçus. Oui.
Mais oui, mais je sais pas en même temps qu'est-ce qu'on attendait après le premier album qui en effet a cartonné tout ça, mais qui était un peu une...
Je ne connaissais pas, donc j'étais à l'aise dans l'écoute.
Mais qui était pas un accident, mais une vraie surprise, quoi. Vendre 1 million de ce genre de premier disque, c'est avec un nom de groupe a priori imprononçable.
Surtout en Belgique.
Et ça ne marche pas parce que tout le monde essaye sur son clavier, mais c'est sur les claviers QWERTY que ça fonctionne.
Ah, absolument.
Donc, moi-même, j'ai du mal à vraiment parler du disque. J'ai l'impression qu'il me file tout le temps entre les doigts. Je vois bien où ils veulent en venir, mais il y a un côté très maîtrisé, très cadré, qui fait que oui, ça m'échappe. Il y a le côté rocker indie qui boit de la viande et qui mange des carottes bio. Mm-hmm.
So hipster parfois, quoi.
Oui, oui. Ouais. Et ils se rendent compte, ils en sont forcément conscients, et donc ils essayent des choses, parfois des trucs un peu caricaturales, comme une espèce de parodie des Black Keys, là. C'est quoi les titres? C'est... je l'avais noté, mais Left and Free. Mm-hmm. Une espèce de... Comme ça, ils partent dans un truc, il y a des moments...
Anglais comme ça.
Ouais.
Et Miley Cyrus.
Oui, ça c'est drôle par exemple.
Comme ça,
oui, mais oui, il sample un morceau de Miley Cyrus. À la fin, il y a un des trois qui déclame du Alfred de Musset. Enfin, il y a.
Ouais, petit interlude de 30 secondes où t'entends vraiment une flûte et des moutons comme ça. Ils sont dans un tripot en Écosse.
Ça part un peu dans tous les sens. Hein. Oui. C'est un peu la critique qui lui est faite quand même. Mais moi, j'ai eu le sentiment un peu de quand même de réentendre le premier, mais en moins bien. Je trouve qu'il y a quand même beaucoup de parallèles. Ils sont passés de 4 à 3 puisqu'ils ont perdu
c'est-à-dire 2 ou 3 jours avant de rentrer en studio, ce qui est quand même toujours un peu perturbant. Ah, oui. Et malgré tout, ils ont continué, ils ont essayé de tenir les délais parce que c'est arrivé assez récemment et pourtant. Le disque est là. Donc, ouais, la volonté aussi de ne pas lâcher le truc, de battre le fer tant qu'il est chaud, que la tension est sur eux, c'est plutôt malin. Mais après.
Parce qu'il y a quand même pas mal de morceaux assez presque soporifiques, la fin. Enfin, c'est
du genou souvent, mais c'est hipster, donc
c'est le genre qui veut ça, non?
Oui, c'est ça. Ça fait partie.
Oui, pas très original.
Grandiloquence, un peu distancié comme ça dans certains morceaux. Puis d'autres, de fait, t'as un peu envie de dormir. Il y a un bonus track, Lovely Day. C'est très représentatif, je trouve, de l'album où c'est bourré de références, mais très référencé sur plein de morceaux. T'entends des voix, des sons que t'as entendus dans l'indie rock, dans le blues, dans le rock FM parfois. Vraiment des trucs très référencés comme ça. Et ils en font quand même quelque chose de très contemporain, très dans l'air du temps, qui fonctionne. Moi, j'ai bien aimé cet album. Alors que je connaissais a priori pas du tout
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on sort un premier album qui fonctionne et déjà, dès le second, on a l'impression que tout est balisé, tout est cadré, que ça devient très compliqué d'en sortir et de...
Mais il n'est pas cadré. Enfin, moi, je l'ai pas...
Je trouve qu'il ose quelque chose.
Parce que justement, il n'y a que 2-3 morceaux formatés, sans doute ceux qu'on va entendre et qui vont faire les singles. Celui dont tu as parlé, je pense qu'il va sortir. Il y avait un autre comme ça qui fonctionnait, le Every Other Freakin', je crois. Mm-hmm. Voilà, il y a des choses... Ils sont pas très représentatifs de l'album, un peu plus rythmé, un peu plus. Ils ont pris un peu de café.
C'est déjà des redites, je trouve, du premier album. Ce qui était original sur le premier album, on le retrouve un peu ici, mais ça sent déjà un peu la recette, quoi. Alors oui, ça reste intéressant. Enfin, moi, je trouve que l'intro, par exemple, est plutôt prometteuse. Mmh. Elle est...
Ça commence comme Powwow, hein, la première fois que tu écoutes la
c'est cruel.
C'est de la capella pendant une minute.
Ouais, mais la voix, cette voix un peu. grinçante comme ça. Je trouve pas, voilà, il y a en tout cas une originalité à ce niveau-là, mais sur la longueur, je trouve que l'album, moi aussi, comme Laurent, me laisse filer.
Ça me donne envie de les voir sur scène, par contre.
Ah, il paraît qu'ils sont mauvais sur scène. Moi, je les ai déjà vus à la Piast Night il y a quelques années, mais j'étais ivre morte, donc je ne m'en souviens plus. Mais il paraît que c'est pas terrible.
C'est dommage, parce que oui, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, ça me semble une chouette musique à jouer sur scène s'il y a du répondant et si l'ambiance y prête.
Mais plutôt dans une petite salle que dans
c'est ça. Tu fais pas.
C'est pas non plus le groupe très charismatique qui
c'est ça.
Voilà, qui va complètement faire exploser.
C'est un peu les mecs d'à côté, quoi.
Mais il y a une montée en puissance. Encore une fois, il y a plein de références quand t'entends le son. J'ai l'impression qu'ils ont écouté beaucoup de rock belge aussi, un peu. Musique de la soude, comme ça, sur des.
Sur Raze,
des sons, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de références dedans, mais.
Tu parles de groupe belge sans vouloir comparer, ce qui n'est pas comparable, mais il y a le premier album de Brains, par exemple, qui va sortir. Alors qu'il y a aussi un côté indie rock, hipster, tout ce qu'on veut, mais où ils ont réussi à garder une espèce de fraîcheur, entre guillemets, que Adjane n'a déjà plus l'air d'avoir au deuxième album, ce qui est quand même perturbant.
Ouais, mais la fraîcheur, c'est tellement has-been quand t'es hipster.
C'est vrai. Oui, c'est vrai.
La fraîcheur, non.
C'est vrai que c'est très marché des tanneurs, hein, cet album. Moi, j'ai effectivement du mal à côté ce disque, mais je lui mettrais 7 sur 10 pour dire que je donne quelque chose.
Oh, mais on est complètement d'accord aujourd'hui.
Ouais, c'est dingue. Hein.
Ouais, moi je 5, pas plus.
Ah, quand ça,
c'est la rentrée des classes, le chef est toujours plus sévère.
C'est un peu snob de ta part, non? 5, c'est ce qu'on met à quelque chose. Enfin, c'est ce qu'on met à Chimène Badi.
Bah, c'est
non, non. C'est...
non, ça c'est moins 5. Non, ici, c'était un milieu, quoi. Voilà. Ça m'a pas vraiment parlé, donc je difficilement mettre plus, quoi.
Il y a un côté total qualité, quoi. Un côté ISO 3200, disque indie hipster, et après. Voilà, il a quand même l'ISO, donc c'est quand même pas si mal que ça.
Non, moi, je me mettrais comme vous un 7, parce que j'avais plus de fraîcheur que vous, vu que je ne connaissais pas le premier album. Et qu'il y a des morceaux qui m'ont plu. Sur la longueur, je me demande, mais c'est plutôt un bon album.
Et l'interlude à la flûte, pour moi, c'est déjà 2 points en moins.
Là, il faut passer au-dessus.
On parlait donc de This Is All Yours, du groupe britannique Alt-J.
Who do you trust? How do you know? By how they appear? What they do? We all have secrets. We all tell lies just to keep them from each other and from ourselves. But sometimes something can happen that leaves you no choice but to reveal it.
The Honorable Woman, une série Sundance BBC, c'est la série qu'on a choisie pour cette émission. 8 épisodes dont le dernier a été diffusé il y a quelques semaines en Grande-Bretagne. Le sujet le plus touchy de l'univers, à savoir le conflit israélo-palestinien. Et deux actrices assez hypnotisantes, Maggie Gyllenhaal et la belge Lubna Azabal, cocorico comme on dit. Voilà pour les grandes lignes. Pour les petites, disons que c'est l'histoire d'une israélienne qui tente de connecter la Palestine à Internet et donc au monde, et d'une palestinienne qu'elle a rencontrée 8 ans plus tôt à Gaza, où elle se sont fait enlever et séquestrer. Les deux femmes en sont revenues avec un enfant et un secret. Gros, gros, gros coup de maître pour une série d'une classe folle, complexe mais très compréhensible. Ça, c'est rare. Un objet très haut de gamme, magistralement écrit. Je suis jalouse d'un scénario pareil. C'est pas de la petite partition d'amateur. Ton avis, Laurent Brex? Tu as aimé, toi aussi?
Ah oui, moi, je suis complètement conquis.
Ah,
ouais, en effet, par les deux actrices... Maggie Gyllenhaal, c'est ça,
ouais.
Qui est américaine,
la sœur de l'autre, ouais. Justement, qui moi je trouve elle en fait trop dans le côté britannique.
Oui, mais justement, je trouve que parce que donc c'est une juive. Est-ce que ses parents sont nés en Israël?
C'est pas ça, son père, Eli Stein.
Ah bref, on sent le.
Non, dans la vie de Maggie.
Dans le film.
Oui, dans le film.
Le personnage, oui. Il y a une espèce de le personnage qui veut être encore plus british que les british, qui soigne son accent pour être encore plus oxfordienne. Que ceux qui sortent de l'université d'Oxford. Donc je trouve que c'est assez cohérent avec le personnage. Elle devient baronne aussi. Enfin, il y a une espèce de... donc je trouve qu'elle est quand même sidérante. Lubna Azabal aussi. Enfin, il y a des tas de personnages comme ça dans cette série. Il y a l'inspecteur anglais.
Il est parfait.
C'est lui qui vient donner ce côté british.
Le moment où on a l'impression qu'il va en faire trop, qu'il va cabotiner. Et juste à ce moment-là, il reprend le truc en main.
C'est lui aussi, incroyable. Je trouve, qu'il rend cette série vraiment exceptionnelle.
Ouais, tout à fait. C'est la cerise sur le gâteau.
Peut-être quand même juste pour ceux qui ne l'ont pas vu comprennent, qu'on parle donc d'une femme d'affaires dont le père était marchand d'armes en Israël. Noël, et qui est assassiné dans un restaurant, et qui donc décide, pour rapprocher les deux parties, de se consacrer à la paix dans la région, et utilise l'arme des télécommunications pour essayer de reconnecter tout le monde. Mais elle va être prise dans un nœud de vipère et de manipulation, etc., qui vont un petit peu...
Voilà, qui montre l'inextricabilité de la situation.
Exactement, voilà. Et c'est centré sur ces personnages, quoi.
Et ce qui est fantastique, comme toutes les grandes séries, c'est que ça mêle les éléments psychologiques à quelque chose de beaucoup plus... aux éléments politiques, la situation politique, le micro et le macro. Enfin, je trouve que c'est extrêmement bien scénarisé, extrêmement bien monté. Il faut s'accrocher peut-être un ou deux épisodes, parce que la trame est assez complexe. Mais après, on rentre dans une espèce de tourbillon comme ça. Il n'y a jamais vraiment de baisse de rythme.
C'est une série quand même très désenchantée, parce que c'est vrai que l'idéalisme s'enfonce et est quasiment impossible dans ce type de conflit. Et c'est un des atouts de la série, c'est qu'elle n'est pas manichéenne, et donc il y a des pourris de tous les côtés, à tel point, c'est peut-être parfois un peu...
Des pourris, c'est encore plus complexe que ça.
Oui, c'est ça, mais à tel point, parfois, c'est peut-être ce qui fait qu'on a un peu du mal, par certains moments, à s'accrocher au personnage, c'est qu'on ne sait jamais s'ils sont sincères ou pas, parce qu'il y a toujours de double ou triple tiroir ou jeu derrière, ou enjeu, ou... Et voilà, c'est ce qui fait le sel aussi de la série, parce que le suspense fonctionne très bien, un mix entre thriller intime et thriller d'espionnage, mais avec aussi la capacité de savoir qui ne joue pas un double jeu dans ce théâtre, quoi.
Mais non, c'est du John le Carré puissance 2 ou 3, avec des agents doubles, des agents triples, des agents quadruples, sans le savoir. Enfin, très complexe.
Avec des alliés qui n'en sont pas, finalement, quand on gratte un petit peu, anglais, américain. Enfin, voilà. Et donc,
c'est très subtil.
C'est très subtil.
Comme tu disais, c'est un sujet a priori très touchy, et je trouve qu'il s'en sort de manière très intelligente, parce que ça ne pointe ni l'un ni l'autre. Ça prouve juste par la fiction, comme tu disais, l'incroyable complexité de l'endroit et le bordel total que c'est d'aujourd'hui d'essayer de détricoter une situation.
Oui.
Incroyablement complexe et sûr avec des... Enfin voilà, c'est vraiment la lasagne de problèmes là sur l'autre.
Les rancœurs du passé viennent se mêler aux problèmes actuels et minent quasiment toute tentative de vouloir sortir de l'ornière, quoi. Et c'est
le prix des choses qui est évoquée là-dedans.
Avec ce côté labyrinthique qui, pour une série, et surtout sur 8 épisodes, rend le truc très dynamique, évidemment, parce qu'on a l'impression de rentrer dans un labyrinthe.
Il faut rester concentré quand même pour bien saisir les enjeux.
Il y a des noirs arabes aussi, des non-juifs,
les strates de sujets sont quand même...
C'est un gage d'excitation aussi dans une série, d'avoir un peu de complexité, de devoir un peu se casser la
tête. Avec ce côté british, un peu arty, de temps en temps, ils se permettent des silences, ils se permettent des langueurs.
Et des vraies tentatives de mise en scène esthétisantes. Mais il y a toujours dans les previously avant chaque épisode, je trouve que c'est extrêmement bien résumé. Ouais. Parfois même, ça prend, c'est monté avec des images qui n'existaient pas dans l'épisode précédent pour pouvoir clarifier vraiment la situation.
Par rapport à ça, tu fais allusion au générique et tout ça. Je trouve que le scénariste et le réalisateur a quand même bien digéré une bonne décennie de séries de haut vol. Parce qu'on retrouve du Homeland, évidemment.
Vrai.
On retrouve dans La Voix, notamment au début, avec cette sentence « Tout le monde a des secrets, tout le monde dit des mensonges ». Ça fait un peu penser à Desperate, avec ce petit résumé en début, et même à du Borgen dans cette femme d'influence qui vit un drame intimiste, mais qui en même temps essaye de sortir et de faire des choses pour la cause, pour la bonne cause. Je trouve qu'ils ont vraiment digéré et mettre de manière très subtile un peu toutes ces influences.
Et on peut saluer le boulot de Hugo Blick, qui est le type qui a écrit et réalisé cette série. Donc c'est vraiment un chef-d'œuvre total. mais je trouve ça dingue.
Apparemment,
mais les seconds rôles, un casting est réussi aussi. Il n'y a pas que Stephen Ree. Je trouve qu'il y a des personnages, la chef des services secret britannique, absolument savoureuse. Voilà, c'est juste Gillian Hall. Moi, j'ai des petites réserves là-dessus. Je trouve qu'elle en fait un peu trop.
Elle est maniérée un peu.
Voilà, qu'on est. On ne sait plus si c'est l'israélienne qui doit s'intégrer et qui se fait plus british, ou si c'est l'actrice américaine qui, pour s'imposer dans un truc BBC, en fait un chouïa trop. Voilà.
En tout cas,
mais c'est le seul, il faut aller chercher les écueils.
La presse internationale l'a trouvé très bien habillée. Il y a beaucoup de commentaires sur ses tenues.
Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il y a une galerie de personnages féminins. Enfin, c'est elle finalement qui tiennent les rênes, mais partout, des services secrets britanniques, américains, et toutes plus salopes les unes que les autres. Enfin, il y a...
faudrait juste salope. Un peu nourrir Lubna Azabal parce qu'elle va...
Oui, elle va perdre un bras. Cher, voilà.
Et je trouve qu'on perd un peu sa trace au milieu du... pour mieux la retrouver par la suite, mais ouais. Voilà, mais c'est vrai que c'est une belle performance aussi.
Et puis super super BO, non, enfin musique ouais, israélo-arabisante. Oui,
mais le sujet dans les séries sur Israël, on sent qu'il y a une certaine presque mode autour de ce conflit-là, des sujets, des thématiques qu'il évoque.
Ah, si tu veux de la complexité dans un scénario, tu voilà, mais on ose y aller, plantes ton décor là-bas.
Intéressant,
quoi,
c'est comme tu disais, c'est touchy, on n'ose pas aller toucher. Et voilà, il y a moyen de faire des très bonnes fictions sans mais être parti par l'un ou l'autre.
Mais c'est pas une série sur le conflit, c'est une série avec le conflit entre le fond. C'est ça aussi, peut-être la nuance qui fait que c'est intéressant.
Bon, je lui mets 9 sur 10 à cette Honorable Woman. Je sais pas pourquoi, je pourrais mettre 10, mais... Oh, ça se fait pas, c'est comme à l'école. Hein. Donc voilà, c'est un 9, mais qui langue vers le 10.
Je vais mettre le 9 aussi.
D'accord, Laurent.
Oui, un bon 8, moi.
Oh, toujours avec ton
mais
8,
oui, parce qu'il y a deux petites choses dont Olivier évoquait, mais aussi, par exemple, on sent qu'ils n'ont peut-être pas eu tous les moyens de leurs ambitions, notamment avec la scène où les militaires israéliens viennent sauver les deux jeunes filles.
C'est un peu devant voilà, la fenêtre.
Avant avec un gros flash derrière la fenêtre, ça fait un petit peu cheap. Voilà,
si vous voulez voir un hélicoptère et des mitraillettes.
Ben, pour être immergé, c'est voilà, petite réserve pour vraiment être complètement dans l'histoire, mais c'est super bien foutu, donc c'est un 8 bien tapé.
Oui, un 8 pour une série. Encore une fois, le format aussi, 8 épisodes, c'est un format qui est en train de s'imposer, qui fonctionne très bien. C'est un bon gros roman d'espionnage. Mm-hmm. Ça arrive à ces niveaux-là, c'est ça qui est intéressant. Mm-hmm. La complexité atteint ce que tu peux trouver dans les romans du genre.
Et donc 8 sur 10 aussi.
Allez, 8,5 si tu veux. 9, je vais garder
c'est
ça.
C'est déjà mieux. Bon, avant de se quitter, on passe en revue nos derniers gros crushs culturels. Le mien est un film turc, c'est la Palme d'Or 2014 à Cannes, qui ne l'a vraiment pas volé. Qui l'a vu ? Personne. Bon, c'est vraiment dommage. Winter Sleep, 3h15, extrêmement éprouvante. C'est un vrai passage à tabac à l'ancienne. C'est un film d'une violence psychologique sourde et aveugle qui questionne la notion même d'humanité de l'homme. Je vous jure qu'on est complètement bouleversé quand on sort de là. On y voit un homme, un artiste raté, proprio d'un hôtel en Cappadoce, confronté à des locataires mauvais payeur et une femme qui ne l'aime plus. Voilà, ça c'est très court, il y a beaucoup plus
ça
de choses là-dedans.
Mais...
c'est un film qui nous montre en fait, comme dans The Honorable Woman, que quoi qu'on fasse, on a toujours tort. C'est évidemment bien plus que ça, c'est une des œuvres les plus riches, les plus brillantes qui m'ait été donné de voir ces dernières années. C'est vraiment pas un hasard si elle a été inspirée par des nouvelles de Tchekhov. C'est Nouri Bilge Ceylan qui l'a réalisé, c'est un authentique chef-d'œuvre à rattraper absolument, je vous assure. Si vous aimez les expériences cinéphiles exigeantes et hors du commun, c'est toujours en salle, vous ne l'oublierez jamais. Vous n'oublierez jamais ce film.
J'ai jamais entendu aussi enthousiaste dans tous les
rendez-vous
qu'on a fait.
Non, mais je suis. C'est une épreuve, hein. Attention, il faut le savoir. Il ne faut pas y aller un soir de déprime parce que ça risque de vous mettre encore un peu plus dedans. Mais c'est inoubliable et ça va vous hanter peut-être à vie.
Oh là là.
Oui.
Quelle pression. Ouais. Allez, tu viens avec
quoi,
ton tennis de rock là.
Oui, voilà, c'est la Palme d'Or de Cannes. Pourquoi vous n'avez pas été la voir? C'est quand même.
Parce que j'ai pas encore trouvé moi les 3 heures et quelques.
J'ai été voir 3 heures.
C'est tout, mais c'est au programme. C'est clair que ça a l'air très très tentant, mais il faut trouver les 3 bonnes heures. Et,
mais il faut aussi avoir le courage de se dire le mardi soir après ta journée, tes enfants, de dire je vais aller voir un bon film de 3h15 qui va me parler de l'humanité qui souffre.
Oui, mais on a tous été voir La Vie d'Adèle qui faisait aussi 3h.
Oui, on ne s'arrêtera pas. Il faut se forcer.
Tout à fait,
parfois,
évidemment. C'est au-dessus de tes queues, je suis bien d'accord.
Hein. Oui, y avait
j'essaie de trouver une excuse foireuse pour dire qu'on n'a pas vu.
C'est vrai que là, il n'y a pas de pépette.
Il n'y a pas de pépette.
Non, zéro pète. Et toi, ton coup de cœur, Laurent?
Je cherche un peu.
Allez,
hein, mais l'autre jour, je suis tombé sur un label belge qui s'est mis en tête de ressortir des vieux vinyles de rumba congolaise. Ça s'appelle, le label, c'est Planète Ilunga. Je suis tombé dessus en écoutant l'émission, un podcast. Un concours.
Ah.
Oui, tout à fait.
De Monsieur Milan.
Absolument.
Je vois.
Quel podcast?
DJ Jérôme Bosch sur Radio Rectangle.
Je vois.
Et qui donc a présenté ce label qui pour l'instant, je crois, a 2 ou 3 références. Et donc, il s'est mis en tête de ressortir sur vinyle des enregistrements rumba congolais des années 50-60. Il a commencé par une anthologie de Grand Calais et l'African Jazz. Voilà. Donc voilà, je trouve que c'est le genre d'initiative assez réjouissante et assez... kinky.
Ok, tu nous résumes ça en une phrase?
Un label belge qui ressort des vinyles congolais.
Qu'on trouve où, comment, pourquoi?
Qu'on trouve sur son site planetilunga.com.
Ouais, aussi via Radio Rectangle, ouais. Puisqu'il y a un podcast.
Ah non, hein, ne faites pas flûter nos auditeurs vers la concurrence.
Tu Google. Bon, le reste, c'est nul, mais...
Laurent Raphaël, ton coup de cœur.
Bien, je viens avec un roman qui est un petit peu l'anti-Rick Reinhardt, puisque c'est un roman anglo-saxon qui claque et instantané. Donc, ça s'appelle « Cataract City » de Craig Davidson, qui est donc l'auteur de « Un goût de rouille et d'os » dont s'était inspiré. Mm-hmm. Enfin, c'est un recueil de nouvelles. Une des nouvelles avait servi de plateforme pour Jacques Audiard, pour le film avec Mathias Cougnard et Marion Cotillard. Et ici, donc, on reste dans cette veine un peu de... Amérique d'en bas, et ça se passe au Canada, en l'occurrence, puisque c'est un auteur canadien. Et c'est une petite ville à proximité des chutes du Niagara. C'est l'histoire d'amitié entre deux jeunes garçons qui sont englués dans ce coin qui est point paumé et qui vont vivre des aventures qu'on ne vit qu'en Amérique. Enfin, c'est ce genre d'histoire qui ne se passe jamais ici. Qui vont être traumatisés à l'âge de 12 ans parce qu'un fan, ils sont fans d'un catcheur, un catcheur à la manque et qui va les emmener dans la forêt. Ce catcheur va mourir et ils vont se retrouver seuls, perdus au milieu de la forêt, ils vont devoir s'en sortir par tous les moyens. Ça va évidemment les marquer parce qu'ils vont flirter avec la mort. Et cette histoire va un peu les hanter, et voilà, quelque part va déterminer un peu leur parcours et leur impossibilité à s'en sortir. Et l'un des deux en particulier va s'enfoncer de plus en plus. Et ça raconte tout ça avec un talent à la fois pour parler de la nature qui est un peu en osmose aussi avec la psychologie des personnages, et à la fois cette amitié et tout ce qui leur arrive, qui est à la fois trépidant, que ce soit les courses de lévrier, le côté Fight Club, puisque un des deux se lance dans les combats de boxe clandestin à la frontière avec les Indiens et les réserves. Ça se passe dans les réserves indiennes du coin. Voilà, c'est toujours des ambiances très prenantes, mais avec une épaisseur psychologique très 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 forte. Et donc je rappelle Cataract City de Craig Davidson chez Albin Michel.
Merci. Ah, c'est bien, c'est
ben dis donc.
Un vrai talent radio. Olivier.
Oui, ben écoute, moi je suis très embêté parce que je pensais avoir le anti-Reinhardt avec, voilà, parmi les romans, on va être très littéraire en cette rentrée, on sera plus basique les prochaines fois. Il y a, voilà, un des grands romans américains de cette rentrée, c'est le Philippe Meyer, qui s'appelle Le Fils, qui est sorti chez Albin Michel, qui est une saga qui s'étale sur 150 ans d'une famille texane. Mm-hmm. Et c'est absolument prodigieux, il y a un souffle dedans vraiment très fort. C'est trois personnages, l'un c'est le pré, c'est le Far West avant que ce ne soit le Far West, en 1840, d'un gamin qui est enlevé par les Comanches. Et donc il y a toute une partie voilà, très forte, très naturaliste là. Après l'un des autres personnages, c'est son fils qui lui va être plutôt dans l'ambiance mexicaine, plutôt propriétaire terrien. Et le troisième qui est plutôt contemporain, qui est une femme qui est la dernière de la lignée, plus dans l'ambiance pétrolière d'aujourd'hui, une grande famille puissante. Bon, voilà, ça ressemble à un résumé de Dallas, surtout pour la dernière partie, ça n'est pas du tout ça. Voilà, c'est un des grands romans vraiment de cette rentrée. Il y a un souffle, il y a un fil qui part de la première page et qui finit à la dernière ligne, qui est magnifique. C'est, voilà, si vous aimez les grands, comme on dit, les grands romans américains, Faulkner, Steinbeck, ce genre de choses, il faut plonger sur Philippe Meyer, Le Fils.
Merci, c'était bien ramassé ça.
J'ai fait court.
Oui. Et ben voilà, c'est tout pour cette fois, hein, n'est-ce pas? Merci d'avoir été là, on vous revient dans 2 semaines. Si vous aimez l'émission, parlez-en autour de vous, aimez-nous sur Facebook, abonnez-vous sur iTunes, on sera content, n'est-ce aimez-nous. Pas qu'on sera content?
Mais oui, ravi, vous étiez parfaite Myriam.
Mais vous en êtes un autre. Au revoir.
Salut.
Salut.
Salut.